بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفان الإسلام، الله عز وجل nous a donné التوفيق depuis deux ou trois mardis d'ici il y a quelques mois à peu près, de parler d'un point extrêmement important, c'est l'obéissance envers les parents, le fait d'être bienfaisant envers les parents durant leur vivant. Et on avait expliqué qu'on a abordé ce sujet dans la lignée des programmes concernant les actions que l'être humain accomplit sur la terre et les conséquences de ces actions le jour de Qiyam. On avait passé en revue quelques péchés plus ou moins graves. Et il était donc nécessaire de parler d'un péché qui est extrêmement lourd en conséquence dans la balance au jour de Qiyama, c'est la désobéissance envers les parents. Mais avant d'aborder le côté négatif de la chose, la désobéissance envers les parents, on a tenu à résumer quelques vertus qu'il y a quant au fait d'obéir aux parents. On a essayé de délimiter, de montrer à peu près quels sont les devoirs des enfants envers leurs parents. Et on a pu voir que quand on parle de respect, de birrul walidain, d'être bienfaisant envers les parents, il n'y a pas de limite d'âge. Cela commence à partir du moment où l'enfant est conscient et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin quant au respect que l'enfant doit éprouver face à ses parents. On a vu que qu'on soit jeune, qu'on soit adolescent, qu'on soit marié, qu'on ait des enfants, et quel que soit notre âge à nous-mêmes, les parents resteront toujours des parents. Et donc on a vu 9 ou 10 points concernant donc ce respect total que le musulman doit avoir envers ses parents. Alors, ce qui nous reste à voir aujourd'hui, c'est un point essentiel, c'est dans le cas où une personne voit ses parents décédés ou un de ses deux parents décédés, qu'est-ce que moi, musulman, je peux encore faire pour mon père ou ma mère qui a quitté ce dunya? Et cette question concerne tant les personnes qui ont toujours été bienfaisants envers leurs parents durant leur vivant, mais cela concerne également les personnes qui, malheureusement, n'ont pas pu consacrer un peu de leur temps pour montrer du respect envers leurs parents, ou des personnes qui n'ont pas eu le tawfir de la part d'Allah de comprendre quelle est la valeur de leurs parents, de leur papa ou de leur maman, et qui aimeraient faire le maximum pour se rattraper, pour se racheter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant de parler de ce cas précis, un hadith qui est magnifique, comme tous les hadiths, c'est un hadith qui nous est rapporté par Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Non, ici, c'est plutôt un hadith de Aisha radiallahu anha. Elle dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت الجنة فسمعت فيها قراءة. Le Prophète raconte que dans son rêve, donc, il raconte, alors je ne sais pas si c'est hadith concerne le mi'raj, donc ça aurait été pas de le rêve, mais en réalité, ou alors cela, c'est un extrait de hadith, au cas où c'est un des rêves du Prophète alayhi salatu wassalam, mais les rêves des prophètes sont véridiques. Il dit que donc, je suis entré au paradis et j'ai entendu de le paradis une lecture mélodieuse. Fakultu manhada. J'ai demandé à qui, mais qui a cet honneur donc de lire le Coran de le paradis. Qalu Haritha ibn Nu'man. Et ils ont, la réponse lui a été donnée que c'est la voix de Hazrat Haritha ibn Nu'man radiallahu anhu. Et ensuite, cette voix a précisé kadhalikum albir, kadhalikum albir. Ainsi, on agit envers les personnes qui sont bienfaisants envers les parents. Et en commentaire, et la suite du hadith dit: وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ. C'était une des personnes qui respectait le mieux sa maman. Haritha ibn Nu'man faisait partie des sahaba qui éprouvait un grand, grand, grand respect pour sa maman. Donc, en commentaire du hadith dit que c'est par cette action vertueuse qui est appréciée par Allah, l'obéissance envers la maman et le papa, d'une manière générale, les parents, qu'Allah Ta'ala lui a accordé donc ce privilège que le prophète a entendu. Le qira, la lecture de Haritha ibn Nu'man de le paradis. Ça, c'est pas rien, mes chers frères. Ce n'est pas rien que le Prophète entend la voix de quelqu'un dans le paradis. C'est le même cas de figure. C'est le même cas de figure que lorsque Hazrat Bilal avait entendu également les pas, les pas de Hazrat Bilal anhu, de le paradis. Et on connaît Hazrat Bilal, qu'est-ce qu'il a vécu, quelles sont les souffrances qu'a connues Hazrat Bilal, quoi qu'Allah lui accorde ce haut degré de le paradis. Maintenant, une personne, un autre sahaba, qui par le respect total qu'il avait envers son papa, envers sa maman, ses parents, d'une manière générale, Allah Ta'ala lui a accordé donc le paradis, et le Prophète a entendu la voix la lecture du Sahaba Haritha ibn Nu'man radiallahu anhu dans le Jannah. Donc ça c'est un idéal, ça c'est l'objectif, que chaque musulman puisse remplir le maximum de ses devoirs envers ses parents. Et on avait vu également l'exemple de Hazrat subhanallah Abu Huraira radiallahu anhu. Hazrat Abu Huraira, il avait un tel respect pour sa mère que sa maman habitait donc juste en face de sa maison. Et lorsqu'Abu Huraira devait sortir de chez lui, hein, il se positionnait près de sa porte et il disait « Assalamu alayki ya umma wa rahmatullahi wa barakatuh ». Il faisait donc les salams sur sa maman et elle répondait « Wa alayka ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh ». Elle répondait les salutations, les salams de son fils. « Fayaqulu » et Abu Huraira disait à sa maman « Rahimakillahu, rahimakillahu kama rabbaytani sagira, qu'Allah te fasse raham, qu'Allah ait pitié de toi ». Tout comme tu as eu pitié de moi, quand j'étais petit. Et elle répondait, Fataqulu, Rahimakallahu kama barartani kabira. Et Allah ait pitié de toi, Abu Huraira, comme tu prends soin de moi dans cette période de ma vie. Hein, comme on pourrait dire en créole dans mon vieux âge. La maman d'Abu Huraira répondait, qu'Allah ait pitié de toi, Abu Huraira, tout comme tu prends soin de moi dans ces derniers moments, ces derniers instants de ma vie. Alors maintenant, comprenez pourquoi Hazrat Abu Huraira radhiallahu anhu fait partie de ces grands savants de l'histoire de l'islam qui a rapporté plus de 5000 hadiths. Quelqu'un qui a eu autant de respect pour sa maman, qui se comportait d'une manière aussi exemplaire, sans aucun doute Allah Ta'ala a élevé son grade. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de limite temporelle dans le respect des parents. Et il y a là un récit, c'est pas un hadith, c'est un récit, si je ne me trompe pas, d'Ibn Umar radhiallahu anhu, de subhanallah. De Abu Huraira, ou l'Anas ibn Umar, si on retrouve le récit, subhanallah, qui observait une personne qui faisait la tawaf avec sa maman sur son dos. C'est une histoire qu'on a dû déjà entendre. Oui, voilà. C'est Ibn Umar, radiallahu anhu, qui était donc à Makkatul Mukarrama, et il vit une personne, un Yamaniyan, quelqu'un du Yémen, qui faisait le tawaf autour de la Kaaba en portant sa maman sur son dos. Hein, ce jeune homme, cette personne, porter sa maman sur son dos pour faire le tawaf. Et cette personne demanda à Umar, « Oh, Ibn Umar, Yabn Umar, atarani, est-ce que, selon toi, hein, j'ai accompli maintenant mon devoir envers ma maman ? C'est-à-dire, est-ce que je lui ai donné tous les droits hein, qu'elle méritait ?»« Qala la wa la bi zafratin wa'ida » Elle dit, « Non, même pas pour le premier cri de douleur qu'elle a subi au moment de te mettre au monde. » C'est-à-dire, même pour ce premier cri de douleur que la maman a dû vivre pour mettre l'enfant au monde, pour cet instant-là aussi, tu n'as pas encore gratifié, tu ne t'es pas encore acquitté de tes devoirs envers ta mère. Donc, on comprend bien que même si de notre vécu, on agit extrêmement bien, en aucun cas, on peut se dire qu'il y a une limite temporelle. Et quand on parle de limite temporelle, hein, ça nous permet d'emboîter sur le sujet extrêmement important du jour, qu'est-ce que moi, musulman, je peux encore faire pour mon papa qui est décédé ou pour ma maman qui est décédée ou pour mes deux parents. Et dans les deux cas de figure, si j'étais déjà quelqu'un de bien, hein, toujours été respectueux envers eux, ben, il est de mon intérêt de continuer dans cette voie. Maintenant, si de mon vivant, je n'ai pas donné tous les droits à mes parents, ben, on ne va pas dire qu'on peut encore se rattraper, ça ne remplace pas la bienfaisance envers les parents de leur vivant. Mais Inch'Allah, si Allah il connaît que notre niyat est sincère et qu'on regrette de ne pas avoir répondu présent au moment voulu, ben Inch'Allah, par ces efforts qu'on va faire, hein, Allah Ta'ala peut nous accepter, Allah Ta'ala, Inch'Allah, peut nous considérer comme les personnes qui ont bien agi envers leurs parents. Alors la première chose, il y a différents points, on va aborder 3 ou 4 points, on ne va pas faire long. La première chose qu'un enfant doit faire pour ses parents après leur décès, c'est demander beaucoup istighfar Allah Azza wa Jal pour leurs parents. Demandez beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner les erreurs que les parents ont pu accomplir. Parce que vous savez, hein, il n'y a personne qui est parfait sur ce dunya, quel que soit notre degré de foi, quel que soit notre degré de science religieuse, notre proximité envers Allah Azza wa Jal, il n'y a pas un musulman qui peut se vanter d'être parfait, de ne pas avoir accompli le moindre péché. Et on avait dit que l'idéal, c'est que lorsque le musulman quitte ce dunya et qu'il retourne auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il retourne sans qu'il n'y ait le moindre péché inscrit dans son mizan de Sayyid, qu'il n'y a pas le moindre péché qui est inscrit dans son livret. Maintenant, on avait vu qu'il y a différentes manières de se faire pardonner par Allah, soit en demandant istighfar, et Allah accepte le repentir. Allah Ta'ala peut également pardonner les péchés par le biais des épreuves, maladies, des problèmes, des soucis, et par le biais des épreuves, Allah Ta'ala, hein, efface les péchés, Allah récompense, rétribue la personne, et Allah augmente le degré de la personne. Il y a une autre possibilité aussi, c'est avant de mourir, Allah Ta'ala éprouve la personne dans le sakaratul maut, dans l'agonie de la mort, c'est-à-dire la personne va mourir avec certaines difficultés, et les difficultés que ce musulman va connaître, hein, cela lui permettra, Inch'Allah, de voir partiellement ou la totalité de ses péchés effacés, et ça c'est Allah seul qui le sait. Donc si mes parents sont décédés, ce que je dois faire, c'est faire exactement comme les Anbiya alayhi salatu wa salam avaient fait pour leurs parents, de demander pardon à Allah Azza wa Jalla. Dans le Coran, nous avons le verset du Coran où Nuh alayhi salam demandait à Allah Rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Connaissez ce verset? Nuh alayhi salam demandait à Allah Azza wa Jalla Rabbi ghfirli, ou Allah, accorde-moi ton pardon wa li walidayya, et accorde le pardon à mes parents. On voit également qu'Ibrahim alayhi salam avait demandé ce doigt Rabbi ghfirli wa li walidayya. Il avait demandé également istighfar pour ses parents, Ibrahim alayhi salam. Et en commentaire, les mufassirins disent que Nuh et Ibrahim alayhi salam font partie de ces, de ce qu'on appelle les ulul azm, hein, les plus grands, hein, les plus grands des prophètes, les cinq plus grands prophètes qu'Allah azza wa jalla a envoyés sur ce dunya. Et le musulman doit prendre ces anbiya-là comme exemple. Ulaika alladhina hadallahu fabi hudahu muqtadi. Nous devons prendre comme qudwa, comme exemple, ces anbiya alayhim salatu wassalam. Et dans le Coran, Allah Ta'ala, de manière explicite, il annonce au prophète alayhi salatu wassalam quel doit être le mode de vie, quelle doit être la manière que l'enfant doit, quelle doit être la manière que l'enfant doit demander istighfar à Allah Azza wa Jalla pour ses parents. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Oh Allah, aie pitié pour eux comme ils m'ont élevé avec tendresse, avec amour. Hein, tout comme mes parents ont eu pitié de moi, ils m'ont élevé avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Oh Allah, ayez pitié pour les parents. Et ce ne sont pas là des doigts qui sont en vain. Ce n'est pas que je demande doigt et puis on passe la main et puis c'est fini. Non, ça c'est quelque chose qui compte énormément. Dans certains commentaires, certains muhadithines ou commentateurs de hadith, ils disent qu'un bon musulman se doit de demander au moins 5 fois istighfar par jour pour ses parents. C'est-à-dire qu'après chaque namaz, le musulman se doit de demander pardon à Allah Azza wa Jal pour ses parents. Ça, c'est quelqu'un qui pense réellement à ses parents. Alors comprenez bien que ce serait vraiment caricatural de se dire que ben, on va aller au cimetière que le jour de Eid, l'Eid al-Fitr, l'Eid al-Adha. Hein, ce seront les seuls moments de l'année où on va penser à ses parents. Hein. Dans l'islam, on n'a pas ce qu'on appelle la fête des morts, hein, qui existe dans d'autres communautés, la Toussaint, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. La fête des morts, c'est quoi? C'est le fait de se rendre. Nous, notre fête de mort, c'est quoi? C'est qu'on va auprès de la tombe de quelqu'un de proche qui est décédé et qu'on va invoquer Allah Azza wa Jalla, on va demander à Allah d'avoir pitié pour ces personnes. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire pour les personnes défuntes. Il n'y a pas un moment de l'année, le jour de Eid, le jour de l'Eid al-Fitr, l'Eid al-Adha, et le maximum qu'on peut faire, on le fait. Et si on n'est pas en mesure d'aller directement, hein, au cimetière, au maqbara, ben d'où on est, dans notre tapis de prière, de chez nous, on doit demander à Allah Azza wa Jalla ce doua qui est extrêmement simple. Rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Et ces douas profitent directement aux parents. On a dit qu'il ne faut pas qu'on croit que c'est des formules qu'on lit et que ces perdus ou seront juste des récompenses pour nous. Bien au contraire, ce sont des invocations qui vont aider directement les parents. Car notre prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Inna Allah azza wa jal » La yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah. Il y aura des gens qui vont voir le degré augmenté dans le paradis. Il y a des personnes, des musulmans qui vont voir le degré élevé dans le paradis. Et ces personnes-là, ils vont dire à Allah, ya Rabb, anna li hadhi. Oh Allah, d'où est-ce qu'on a eu ces degrés? Ce qu'on avait expliqué une fois aussi, que chaque personne va reconnaître ses bonnes et ses mauvaises actions le jour de Qiyam. On avait déjà expliqué ça, hein, à un tel point qu'il y a des gens qui vont voir des montagnes de hasana, ils vont dire, oh Allah, on sait pas, cela ne nous appartient pas. Et Allah Ta'ala va dire que ça, ce sont les douas que vous avez demandés sur ce dunya, et donc Allah n'a pas concrétisé ces douas, et en compensation, Allah Ta'ala les a gardés en récompense pour la personne le jour de Qiyam. Pareil, hein, ces personnes vont voir le degré augmenté de le Jannah, ils vont dire, oh Allah, hein, ce n'est pas nous, hein, qui avons fait autant de bonnes actions pour avoir ce degré. Et Allah Ta'ala dira, bistirfari waladika laka. Il dit, ce degré, tu les as obtenus par le biais du istirfar, par le biais du tauba que tes enfants demandaient pour toi. C'est-à-dire que le tauba qu'on demande pour les parents, cela va faire augmenter le degré, le daraja de nos parents, Inch'Allah, dans le Jannah. Hadith qui est Hassan, rapporté par Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Et hadith beaucoup plus connu dans Sahih Muslim, dans Sahih Bukhari, lorsque le prophète dit « Iza mat ibn Adam in qata'a amaluhu illa min salat » Lorsqu'un être humain meurt, hein, ses actions sont bloquées. C'est-à-dire, ce qu'il a fait comme bonne action, c'est pour lui. Ce qu'il a fait comme péché également, c'est pour lui. Contre lui, plutôt. À l'exception de trois catégories de bonnes actions, et parmi ces bonnes actions, le prophète a précisé, ou alors si cette personne a laissé un enfant qui fait des doigts pour lui. Si on a donné une éducation religieuse correcte à nos enfants, et que ces enfants-là deviennent hein, des personnes pieuses, et qui vont faire doigts pour nous après notre décès, ben ça, c'est des doigts qui vont nous profiter directement. Un enfant pieux, qui va demander doua à Allah Azza wa Jal, donc pour ses parents. Bien sûr, exception pour un enfant dont les parents ne sont pas musulmans. Exception donc pour un enfant dont les parents ne sont pas musulmans, dans le cas où hein, une personne n'a pas pu voir son papa ou sa maman, lié à la shahada, et que donc son papa ou sa maman est décédé sans avoir le iman, là, dans ce cas précis-là, cette personne n'est pas en droit de demander istighfar pour ses parents. Mais durant le vivant, jusqu'au dernier souffle de leur vie, l'obéissance, la reconnaissance envers les parents reste exactement le même. Que les parents soient musulmans ou non, il n'y a strictement aucune différence concernant les devoirs et le respect que l'enfant doit via vie de ses parents, tant que ses parents ne lui ordonnent pas de faire quelque chose qui est haram. Comme on l'a dit dans le Coran, فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Hein, donc, quand les parents ne sont pas musulmans, Allah Ta'ala nous dit bien de ne pas les obéir hein, quand il s'agit d'un péché, mais وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, de garder de bonnes relations avec eux dans ce dunya. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, donc il était en voyage, il est passé près de la tombe de sa maman, et le prophète alayhi salatu wassalam s'est arrêté auprès de la tombe de sa maman. Fabaka wa abka man hawlahu, le prophète s'est mis à pleurer chaudement devant la tombe de sa mère, à un tel point que les sahaba ridwanullahi alayhi majma'in également se sont mis à pleurer. Et le prophète a dit, ista'dantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li, j'ai demandé l'autorisation à Allah azza wa jalla de demander pardon, hein, de demander tawba pour ma maman, mais Allah Ta'ala ne me l'a pas autorisé. وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي. Et j'ai donc demandé à Allah l'autorisation de rendre visite à la tombe donc, de ma mère, le Qasam, sa maman, est décédée sans iman. Et là, Allah Azza wa Jal m'a accordé l'autorisation de rendre visite à la tombe de ma mère. Hadith rapporté par Imam Muslim. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'on va en faire que deux ce soir. Le premier point, demander abondamment istighfar pour nos parents qui sont décédés. Deuxième point, extrêmement important, les ulama disent que lorsque un des parents meurt, il est du devoir des enfants, des héritiers d'une manière générale, mais de manière plus directe de la part des enfants, de voir si les parents ont laissé des dettes et dans la mesure du possible, de s'acquitter de ces dettes, quel que soit le montant des dettes que les parents ont pu laisser. Et le fait de s'acquitter donc des dettes des parents, c'est un devoir qui passe avant même l'héritage. Évidemment, si quelqu'un meurt et qu'on a commencé à distribuer l'héritage, les frères, les sœurs, etc., ils ont eu leur part, maintenant, rappeler ces gens-là pour dire que voilà, il y a une facture, papa devait à telle personne telle somme, etc., ça va être plus difficile. Donc, le fait de tirer de la tarika, de l'héritage, hein, ce que les parents devaient, hein, comme bien, argent ou comme gage, ou quelle que soit la nature des dettes envers une personne, ça doit être fait avant même la distribution des biens. Min ba'di wasiyatin yusi biha awdan, il y a donc les dettes, et puis il y a les wasiyat, ça on verra par la suite. Une fois, un sahaba avait demandé au prophète alayhi salatu wassalam, ya Allah, il a dit que, ô prophète d'Allah, ma maman avait fait le niyat de faire le hajj, le pèlerinage, mais elle n'a pas pu faire le hajj et elle est décédée. Est-ce que je dois faire le hajj pour elle? Le prophète dit, na'am, hujji an hajj, oui, tu dois faire le hajj pour ta maman. Et le prophète a demandé à cette personne, ara'ayti, parlez avec une dame, ara'ayti law kana ala ummiki daynun akunti qadiyatahu. Maintenant, dit, si ta maman avait des dettes, est-ce que tu te serais acquitté de ces dettes? Sahaba, immédiatement oui. Les ulama, ils en déduisent par ce masla qu'il est du devoir des enfants, des héritiers, de s'acquitter des dettes que les parents ont pu laisser. Et il y a pas mal d'exemples de sahaba, radiallahu anhu ajma'in, on ne va pas citer tous les exemples. Il y avait Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, le joueur de Ma'arakatul Jamal, ça c'est un des moments les plus dramatiques donc, de l'histoire de l'islam. Hein. Lors de la Ma'arakatul Jamal, il avait fait ce wasiyat à son fils, mon fils, je sais qu'aujourd'hui dans cette bataille je vais mourir opprimé, et la chose qui me tient le plus à cœur là, ce sont mes dettes, hein. Et là il a dit voilà, essaye d'avoir le montant qu'il faut pour payer les dettes, etc. Donc il a fait ce fikar, ce souci de transmettre à son enfant, à son fils, que voilà, j'ai des dettes, pense à régler mes dettes quand je vais mourir, parce que j'ai la conviction qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de ma vie, que je vais mourir, mazloum, opprimé, donc dans cette bataille. Également, on a l'exemple d'Umar, radiallahu anhu, qui avait dit à son fils Ibn Umar, radiallahu anhu, également, « Undur ma alayya min ad-dayn », hein, dit « Regarde, calcule quelles sont les dettes qui me restent et fais le maximum pour t'en acquitter. » Il y a également le cas de Jabir, radiallahu anhu, hein, qui s'acquittait des dettes de son papa après son décès, alors que son papa devait l'argent, donc un Yahoud, hein, une personne de confession juive. Donc on comprend bien que quand quelqu'un doit de l'argent, hein, on ne distingue pas s'il doit de l'argent à des musulmans, ou à un chrétien, ou à un juif, ou quelqu'un qui ne croit en rien. Du moment qu'on doit de l'argent à quelqu'un, on se doit de s'acquitter de cet engagement. On terminera, je voulais faire 20 minutes aujourd'hui, on est à 21. On terminera avec un dernier point. Si les parents avaient fait une promesse quelconque, là aussi on doit faire le maximum, on doit faire le maximum pour remplir, hein, ce qui, pour satisfaire le vœu, pour satisfaire le désir, hein, qu'ils avaient exprimé de leur vivant. Il y avait une histoire comme ça une fois, hadith rapporté par Bukhari, il dit que Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu قال النبي عليه الصلاة والسلام, parce qu'il a dit à Jabir que si le butin qui vient de Al-Bahreïn, hein, de cette région, si le butin arrive, je vais te donner telle et telle chose, telle somme, je te promets, si le butin de Bahreïn arrive bientôt. Et le butin de Bahreïn est arrivé uniquement après le décès du prophète alayhi salat wa salam. Et donc lorsque l'argent est arrivé et que Abu Bakr était donc le calife, hein, il a demandé, est-ce que quelqu'un a eu une promesse, est-ce que le prophète a fait un engagement avec quelqu'un parmi vous, hein, une dette ou alors un engagement? Et là, Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, hein, il a été voir Abu Bakr, dit que le Prophète m'a promis telle, telle chose. Et là, Abu Bakr, radiallahu anhu, lui a accordé ce que le Prophète m'avait promis, et même plus que ça. Donc, si nous savons, hein, on a une preuve concrète, bon, que nos parents avaient fait la promesse, par exemple, je ne sais pas moi, d'aider tel masjid, dit que bon, voilà, aussitôt que j'aurai les revenus, je fais le niat de donner 1000 euros, 2000 euros pour tel endroit, ou pour telle ou telle cause. Dans la mesure du possible, on doit s'efforcer, hein, de respecter l'engagement de nos parents, avant même d'en terminer avec le tariqa, d'en terminer avec l'héritage. Ah, bon. Bon, après, il y a un point qui ne nous concerne pas directement. Hein, une chose vraiment, vraiment à éviter. Alhamdoulilah, ici à La Réunion, il n'y a pas. Hein, mais dans les pays en Inde, il y a. Hein, dans les pays arabes aussi, c'est une vieille tradition. On appelle ça an-niyah, hein, les pleureuses. Ça, il faut absolument éviter. Hein, chez les Arabes, à l'époque, quand quelqu'un était mort, ben, parfois, on faisait venir des pleureuses. Des dames qui venaient juste pour pleurer. C'est comme si on allait honorer cette personne qui est décédée en montrant qu'il y a des gens qui pleurent, qui sont tristes. Alors, on appelle ça « darb al-khudud », etc. C'est des femmes, c'était des professionnelles. Hein. Elles venaient auprès des tombes, elles pleuraient, elles s'arrachaient les cheveux, elles se giflaient, etc. etc. Hein, ça, c'était apparemment pour exprimer leur tristesse face au départ de cette personne. Et ça fait partie des traditions de Jahiliya, hein, de la période pré-islamique. Mais dans certains pays arabes, on retrouve un peu ces traditions. Maintenant, il y a le cas de personnes qui ne peuvent pas se contenir, hein, face au décès de quelqu'un, et la personne se met à pleurer à haute voix, d'accord? Donc, bon, parfois l'émotion est sincère, on ne peut pas dire à une personne d'arrêter de pleurer, ça c'est difficile. Hein? Il ne faut pas oublier également que le prophète a dit que « innama sabru inda sadmatil ula ». Le musulman qui fait réellement preuve de patience, c'est celui qui fera le sabr dès les premiers moments de la douleur. Ce n'est pas qu'il nous est arrivé quelque chose de difficile, j'ai exprimé ma colère, ma tristesse, j'ai pleuré, j'ai hurlé, j'ai crié peut-être même mon mécontentement, et après coup, après 2 ou 3 jours, je me ressaisis, je me dis que non, ça vient de la part d'Allah, maintenant je vais faire sabbat. Non, le vrai sabbat, c'est de le faire immédiatement, c'est-à-dire dès quand il y a le premier coup qui est dur, hein, mais c'est là qu'on voit la valeur du iman. Est-ce que le iman pourra avaler cette épreuve? Est-ce que le iman pourra refaire surface?
par rapport à l'émotion et se dire que ben, de toute façon tout ça, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça c'est une chose que le prophète sallam réprouvait complètement, hein, et dans certaines choses il a même dit que les personnes qui viennent pour pleurer, hein, c'est des gens qui apportent Shaytan avec eux dans la maison de la personne qui est décédée. Et le fait de pleurer, hein, n'arrange strictement rien la situation de la personne qui est décédée. Dans certaines choses, il est même dit que la personne décédée, elle est perturbée par les pleurs et les cris de la famille. Maintenant, comme on a dit qu'une personne pleure le décès de son enfant, de son papa, de sa maman, ça c'est quelque chose de naturel. Le prophète lui-même tenait son fils Ibrahim dans sa main, hein, dans ses mains, et le prophète pleurait. Il y avait des larmes qui coulaient, hein, des yeux mubarak du prophète. Et là, il y avait un sahaba, hadith très connu, il dit « Wa anta ya Rasulallah » Il dit « Oh prophète d'Allah » Il dit « Pourquoi est-ce que toi aussi tu pleures ?» Le prophète m'a dit « Yabna Auf innaha rahma » Il dit que ça c'est la rahma, la clémence, qu'Allah, la tendresse, l'humanisme, on pourrait dire qu'Allah a mis dans le cœur de chaque personne. Et le prophète a dit une parole qui est magnifique, qui doit être mémorisée par n'importe quelle personne, hein, qui est éprouvée. Il dit « Inna al-ayna tadma'a » Les yeux pleurent, les larmes donc coulent des yeux. « Wal qalbu yahzan » Et le cœur est attristé. « Wala naqulu illa ma yurda rabbana » Et nous ne prononçons rien d'autre, hein, qui peut faire, nous ne prononçons que des paroles qui peuvent plaire à Allah, notre Créateur. C'est-à-dire qu'on ne dira jamais des paroles qui vont à l'encontre du destin, à l'encontre de la volonté d'Allah. C'est-à-dire, tout ce qu'on va dire, malgré l'émotion, malgré les pleurs, malgré la tristesse du cœur, mais tout ça, toutes nos paroles doivent être mesurées, contenues, et ne jamais aller à l'encontre de la décision d'Allah Azza wa Jal. Mais il a dit que, wa inna bi firatika ya Ibrahim la mahzunun, mais sache que Ibrahim, que nous sommes très tristes, nous sommes attristés de ton départ. Le prophète a pleuré pour le départ d'Ibrahim alayhi salam, mais ce n'était pas là un signe de mécontentement face au taqdir. Qui était mieux informé, hein, que le prophète alayhi salam concernant le taqdir? Il connaissait que tout vient de la part d'Allah, son iman, rien à dire, subhanallah, mais ça c'est les sentiments humains qui habitent le cœur de chaque personne. Donc voilà, on a vu, mis à part ce dernier point, on a vu parmi les choses que des enfants peuvent encore faire pour leurs parents après le décès. Premièrement, demander istighfar pour leurs parents, d'accord? Essayer de payer, pas essayer, ils doivent payer les dettes de leurs parents, hein, après leur décès. Dans la mesure du possible, essayer de remplir les engagements que les parents avaient pris et éviter de pleurer soi-même sur la tombe des personnes décédées, ou alors même dans l'entourage, pour faire en sorte que, si on connaît qu'il y a des gens qui sont extrêmement sensibles, de faire en sorte que même s'ils pleurent, mais ne pas les laisser près du corps du mayette, hein, parce que c'est préjudiciable pour la personne qui est décédée. Ce qui nous reste à voir, inch'Allah, la prochaine fois, dans une seconde partie, c'est la sadaqa jariya, ce qu'on appelle ici le waqaf, hein, W-A-Q-F, qu'on appelle waqaf, c'est de l'urdu, en arabe c'est al-waqf, d'accord? Le sadaqa jariya, quels sont les genres de sadaqa qu'on peut faire pour les parents après leur décès, et quelle est la meilleure sadaqa qu'une personne peut faire pour un papa ou une maman qui est décédée. Ce qui nous reste à voir également, il y a encore quelques points, juste on résume. Également, bon, si on peut remplacer les jeûnes, les carèmes que nos parents avaient ratés, ça aussi, ce serait une bonne chose. Septième point, si nos parents sont décédés sans faire le hajj, hein, il est de notre devoir, dans la mesure du possible, de faire le hajj pour eux. Bien sûr, c'est le hajj des faras sur eux. Également, les vœux que les parents avaient faits. Il y a une différence entre promesses et vœux. Hein, s'ils avaient fait un vœu, là aussi, on doit essayer de réaliser, etc., etc. Si nos parents, ça c'est important, si nos parents quittaient ce dunya, et ils avaient eu quelques accrochages, hein, avec d'autres personnes de la famille ou des étrangers, s'il y avait eu, hein, des dissensions, et donc ils sont décédés, et donc en mauvais termes, hein, ils se sont quittés en mauvais termes, il est de notre devoir d'aller demander pardon, hein, à la personne pour nos parents qui sont décédés, et faire en sorte qu'il n'y a pas une personne, hein, qui a des reproches à faire pour la personne qui défend. Ça, c'est une grande action qu'un enfant puisse faire. Si on connaît qu'il y a un vieux tonton avec qui papa ne parle plus depuis des années, et qu'on n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit, hein, pour amener l'entente entre eux, ben, quand mon père va mourir, hein, si on n'a rien pu faire jusqu'à maintenant, il est de mon devoir d'enfant, si je veux que mon père se porte bien dans la tombe, je dois aller voir absolument cette personne. Dire, écoute, papa a pu te faire telle ou telle chose, si papa te devait de l'argent, je te donne, d'accord? Mais fais marre à mon papa. Parce que cette personne qui aura une rancœur contre le défunt, vous ne savez pas, ça peut aller jusqu'à où? Vous savez jusqu'à où ça peut aller? Jusqu'au tribunal d'Allah Azza wa Jal, quand Allah Ta'ala appelle les gens qui ont été opprimés, et Allah Ta'ala appelle les oppresseurs, et là Allah Ta'ala va juger les oppresseurs et les opprimés. Donc, autant de bonnes actions qu'on essaye de donner à nos parents qui sont décédés. Mais s'il y a des personnes qui sont mécontents d'eux après leur décès, ça c'est quelque chose d'extrêmement lourd ça. Ça c'est un gros boulet qu'on laisse hein, aux pieds de nos parents. Donc à nous d'aller nous rabaisser s'il le faut, hein, de faire un premier pas avec les personnes avec qui nos parents avaient eu peut-être des ennuis durant leur vie dans ce dunya. Et puis il y a encore pas mal de choses, Inch'Allah. Qu'Allah nous tawfiq en 2 ou 3 séances, essayer de compléter ça, entre autres, garder de bonnes relations avec la famille de papa ou de maman décédée, hein, même si c'est la famille éloignée, un vieux tonton ou un neveu par alliance, etc. Il faut essayer de garder de bonnes relations avec la famille et au-delà de ça, garder de bonnes relations avec les amis de nos parents qui étaient décédés. Qu'Allah nous tawfiq de compenser quelques paroles. Inch'Allah, si parmi nous il y a des personnes dont les parents sont toujours vivants, alhamdulillah, on doit faire le maximum pour mettre en pratique ce qu'on a déjà expliqué, pour que nos parents soient toujours satisfaits, toujours contents de nous. On aura le contentement d'Allah et on aura la baraka de notre vie de ce dunya, la bénédiction de notre vie de ce dunya et dans l'au-delà. Et si un de nos parents ou des deux parents sont déjà décédés, subhanallah, on va essayer de mettre en pratique les quelques conseils qu'on a donnés. Et le plus important, c'est au moins 5 fois par jour demander istighfar pour nos parents. Qu'Allah nous accepte, nous permet de comprendre, de faire mal, de mettre en pratique, de propager à nos meilleurs et à nos soeurs. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.